Il y en a quatre qui ont répondu bonjour. Les autres, vous dormez encore? Après les chants que vous avez eus là, vous dormez encore? Vous êtes bien réveillés? Oui? Bon, c'est bon. OK. J'ai lu dernièrement une petite histoire qui m'a amené à penser que ça pourrait peut-être une petite introduction ici. C'est une maman qui a dit à son petit garçon, un matin, le petit garçon il part pour aller à l'école, et la maman, après le petit garçon, se dirige vers son autobus, elle retourne à la maison, commence à faire son travail journalier. Tout à coup, ça cogne à la porte. Elle ouvre la porte. Le petit garçon est là. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit, « J'ai décidé de ne plus aller à l'école. » Elle dit, « Comment ça? » Ben, il dit, « C'est parce que c'est trop long, c'est trop difficile, puis c'est trop ennuyeux. » Ben, elle dit, « Tu viens de décrire c'est quoi la vie? Monte l'autobus. » Dieu n'a jamais dit que ça serait facile, la vie chrétienne, hein? Alors, montez dans l'autobus. On monte ensemble ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5, toutefois, les versets vont apparaître à l'écran. Ce matin, nous allons voir quatre modèles d'hommes qui ont marché avec Dieu. Quatre modèles d'hommes, les quatre derniers qu'on retrouve dans la Genèse, qui ont marché avec Dieu avant le déluge. Et l'application est simple, hein? Nous aussi, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Marcher, ça veut dire ne pas abandonner, poursuivre jusqu'au bout, persévérer, continuer, ne pas arrêter. C'est ce que ça veut dire marcher, on continue, on n'arrête pas, malgré les obstacles, tout ce qui peut arriver. Alors, on a les quatre personnages antédiluviens. Il y a Enoch, Methuselah, Lémec et Noé. J'ai une carte ici qui va peut-être, que ça va donner sur la carte. OK, c'est bon. Alors, vous avez Enoch, Methuselah, Lémec, Noé. Alors, Enoch marcha avec Dieu 300 ans, il fut pris. Methuselah, il est mort l'année du déluge. L'année du déluge eut lieu en 1656, et Methuselah est mort cette année-là. On va voir pourquoi tantôt. Lémec, il est mort 5 ans avant le déluge. Noé, il a marché 500 ans, et il a traversé le déluge avec ses trois fils, Sem, Kem et Japhet. Alors, le premier personnage que nous allons regarder, c'est Enoch. Alors, on va lire le texte. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu. Et le livre d'Hébreux nous rappelle que c'est un héros de la foi, et que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne fût point, il ne vit point la mort. Dieu l'a enlevé, car il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On a ces quatre personnages qui sont là. Quatre personnages qui vont nous démontrer ici que Enoch, les quatre ont marché avec Dieu, mais deux plus précisément qui sont mentionnés. Enoch qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et ce n'était pas facile durant ces années-là. Pas plus facile qu'aujourd'hui. Et vous, dans la Genèse, on relève, la Genèse relève sa marche, la marche d'Enoch, parce qu'Enoch fit preuve de ténacité, de persévérance, de courage pendant 300 ans, mais on a remarqué dans le texte, c'est 300 ans après la naissance de Methuselah. Comment est-ce qu'il se comportait avant, on ne sait pas, mais il a vécu 375 ans. Mais on sait qu'après la naissance de Methuselah, il a marché avec Dieu. Peu importe ce qui se passait autour de lui, il marchait avec Dieu. Deuxième point, c'est une marche qui était le reflet de sa foi vivante. C'est un homme qui était agréable à Dieu. S'il était agréable à Dieu, c'est parce qu'il était en bonne relation avec Dieu. Et le troisième point qu'on peut voir d'Enoch, c'est que, alors que le premier livre de la Bible nous apprend sa marche avec Dieu, le dernier épître du Nouveau Testament nous parle de sa prédication. Et c'est dans le livre de Jude que nous lisons, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. » Lui, il prophétisait en ce qui concerne le déluge, qui s'en vient. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce que je veux dire ici, c'est que dans le temps d'Enoch, j'aime beaucoup ça, dans le temps d'Enoch, dans le temps de Noé, dans le temps d'Abraham, dans le temps de David. Mais dans mon temps, aujourd'hui, c'est là. C'est moi aujourd'hui, dans mon temps. Mais dans le temps d'Enoch, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes immoraux qu'ils ont fait dans ce temps-là. Mais oui, ça, c'est un jugement futur annoncé par Enoch et en conformité avec le jugement qui était à venir, c'est-à-dire le déluge. Quatre traits caractéristiques qu'on peut trouver de la vie d'Enoch, c'est que le premier trait caractéristique de sa vie, c'est qu'il était entouré de ténèbres. Vous pouvez faire facilement le parallèle avec aujourd'hui, hein? Il était entouré de ténèbres. Le deuxième point, c'est qu'il était... deuxième point caractéristique de sa vie, il fut sauvé par grâce. Là aussi, si nous autres, on peut... Si on n'a pas cette réponse-là pour chacun de nous, si on n'a pas la conviction qu'on est sauvé par grâce, bien, ce matin, c'est la possibilité pour quiconque, hein, d'accepter le Seigneur comme son sauveur personnel et d'être sauvé par la grâce. Le troisième point, c'est qu'il était pieux. C'est-à-dire qu'il avait une révérence envers Dieu, il avait un respect envers Dieu, et il était agréable à Dieu. C'est à cause de cela, à cause de son attachement au Seigneur. Et ça nous interpelle. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que dans ma piété, dans mon attachement au Seigneur, dans ma marche chrétienne, est-ce que ça répond vraiment au Seigneur, que le Seigneur, ça le rend agréable. Quatrième point qu'on peut voir, c'est qu'il a été enlevé soudainement. Hier, je parlais avec quelqu'un qui a des difficultés avec sa santé, puis il y en a plusieurs qui ne veulent pas passer par la mort. Ils veulent tous passer par l'enlèvement. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est tous là. On voudrait tous partir avant la mort. On voudrait plus partir. Même ceux qui sont déjà partis, là. Mais eux autres, si, leur espérance, c'était d'être enlevés avant de mourir. Mais le Seigneur a jugé autrement pour eux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, sa tâche morale étant terminée, Dieu l'a retiré de ce monde. Si vous êtes encore là, c'est parce que Dieu veut encore s'occuper de vous, se servir de vous. La tâche morale. Comment est-ce que le monde vous voit? On retrouve ici une figure de l'Église, hein? La grande tribulation qui s'en vient. Parce que le déluge, c'est un jugement. C'est un autre message, la plus grande tempête de l'histoire. C'est une tempête un peu plus grosse qu'on vient de voir actuelle. Là. Mais avant que le Seigneur vienne nous chercher, nous sommes ici-bas et nous avons une tâche morale à accomplir. Et comment est-ce que on réagit à ça? Moi, ce qui m'interpelle, est-ce que Dieu me reconnaît comme un homme qui marche avec Dieu? Et je me pose la question souvent dans mes démarches, dans mes actions, dans mes réactions avec les gens. Est-ce que ma marche démontre que je suis en bonne relation avec Dieu? Est-ce que ça touche les gens? Est-ce qu'ils se rendent compte que lui n'est pas pareil comme les autres? Il y a quelque chose de différent. Ça m'est arrivé souvent, moi, d'arriver à des endroits, là, puis les gars, ils sont anticatholiques là, avec le vocabulaire. Là. Et étant donné qu'on n'embarque pas dans leur langage, à un moment donné, oups, ça baisse. Les maudits deviennent des maudines, les tabarnes, ça bosse. À un moment donné, ça glisse. Tu sais, ça change. Pourquoi? Juste parce que moi, je ne le lis pas. Les autres, ça les amène à ralentir. Ça, c'est notre tâche morale. Il marcha avec Dieu. Sa marche fut significative après la naissance de Methuselah. Alors, nous autres, là, que nous soyons parents, grands-parents, mariés, pas mariés, n'importe quoi, peu importe. Est-ce que nous prenons conscience de l'influence que nous avons sur le monde qui sont autour de nous? Même si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas vous en rendre compte comment les gens vont arriver à un moment donné, parce qu'ils nous repèrent assez facilement. Puis quand ils ont des problèmes, là, ils viennent nous voir. Moi, il m'arrive souvent de dire, quand je vois des personnes qui sont un petit peu réfractaires, là, on leur pose juste une question bien simple. Me permets-tu que je prie pour toi? Ce n'est pas accusateur du tout, puis personne ne dit non. C'est toujours oui. Mais là, ils savent qu'on a quelque chose de spécial. Puis quand les moments difficiles vont venir, ils vont venir nous demander. On a même quelqu'un qui a appelé à la maison, puis pas juste une personne, qui appelle chez nous, « Pourriez-vous prier pour nous autres? » Quand les moments difficiles arrivent, c'est là. C'est là qu'on les voit apparaître. Alors, on doit avoir une marche avec Dieu, comme Enoch avait, ça c'est notre point qu'on peut retenir d'Enoch, c'est un homme qui marchait avec Dieu. Et mon application, c'est « je dois marcher avec Dieu ». Deuxième personnage est Methuselah. Alors Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Methuselah furent de 969 ans. Methuselah est sans doute l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et il fut repris l'année du déluge. J'ai un autre petit graphique ici qui démontre... Il y a Jéred, qui est le père d'Enoch, qui a vécu, lui, quelque chose comme 962. Et Enoch, lui, a vécu 395, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Methuselah, qui est celui qui a vécu le plus longtemps, Lémec, saint ans, il est mort 5 ans avant le déluge. Lui, il a vécu 777. Et on a le Noé qui a vécu 950 ans, mais lui a passé à travers le déluge. Et on voit qu'après ça, comment que ça a descendu. Hein? Abraham, 175, Joseph, 110. Ça a baissé assez rapidement. Alors, Methuselah, son nom signifie « Lorsqu'il mourra, cela viendra. » Et il mourut l'année du déluge. Alors que son père, son fils Lémec, lui, il mourut 5 ans avant le déluge. Je ne sais pas, probablement qu'il savait, c'est une révélation probablement de l'appeler ce nom-là, qui voulait dire que lorsqu'il mourra, cela arrivera. Et lorsqu'il est mort, le déluge est arrivé. C'est intéressant de regarder ça. Le troisième personnage qu'on peut retrouver, ça c'était la même carte que tantôt, qui a Metuchela, qui a vécu 1600, qui est mort en 1650, il a vécu 969 ans. Son fils Lémec est mort 5 ans avant, puis Noé qui a traversé le déluge. Troisième personnage, c'est Lémec. Mais Lémec, lui, a appelé son fils Noé. Et Noé, ça veut dire consolation. Alors Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Vous vous souvenez de Genèse 3, 17, Dieu avait dit à Abraham, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Alors, 1500 ans plus tard, le monde trouve ça très difficile de vivre sur terre, sur cette terre maudite, à cause de tout ce qui se passait sur cette terre. Il commence à aller très mal. Là. Vous savez que dans le temps de Noé, dans le temps de Lémec, Lémec, lui, il a simplement... On n'a pas grand-chose qui nous parle de lui, excepté que le nom de son fils Noé, ça veut dire qu'il va nous consoler. Il va être le consolateur. Alors, Noé qui va passer à travers le déluge, il va consoler, il va être un consolateur pour le peuple qui va suivre. Quatrième personnage, c'est Noé. Noé, le monde du temps de Noé, c'est un monde impie, un monde moqueur, un monde incrédule, un monde indifférent, ne se souciant aucunement de Dieu. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, dans Matthieu 24. Un monde trop occupé à manger et boire, un monde trop occupé à acheter et vendre. Il ne s'intéresse qu'à lui et à ses activités personnelles. Complètement indifférent aux choses de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez pas écouté, vous allez l'écouter bientôt, la petite annonce pour le HBN. Là. On pose encore des questions aux gens sur la rue. Et c'est incroyable, les gens, comment ils sont indifférents aux choses de Dieu. Et c'est remarquable, le monde du temps de Noé est le monde dans lequel nous vivons, insouciant de Dieu. Plus que ça va, de moins en moins, les gens se soucient de Dieu. C'est de la légende. Jésus, c'est de la légende. Puis toutes les affaires, on ne s'occupe plus de ça. Tout le monde, c'est pas compliqué. Le ciel, l'enfer, ça n'existe plus. Tout le monde s'en va au ciel. Personne ne sait c'est quoi le ciel, mais ils s'en vont tous au ciel, pareil. C'est le message d'aujourd'hui. Satan, il y a 50 ans, il les envoyait tous au purgatoire. Aujourd'hui, ils les envoient tous au ciel. Tout le monde croit ça. Parce que ton purgatoire, l'enfer, là, tu ne fais plus le purgatoire, là, tu fais l'enfer sur la terre. Que, quand tu as fini l'enfer, tu tombes au ciel. Satan, il a toujours tricoté sa religion comme il la veut. Hein? Michel Renaudot, lui, il dit Renaudot, pas Michel Penneau, Renaudot. Voilà la situation morale et spirituelle dans laquelle se trouvait l'humanité au moment où l'Éternel décide de l'anéantir par le déluge. Un monde impie, moqueur, incrédule, indifférent, tout ce qu'il pense, c'est à lui. Commence à travailler, hop, je veux prendre des vacances, tout de suite. On prend les vacances le plus tôt possible. On change de job parce que celle-là est plus payante, l'autre, je suis tanné. Il y a toutes sortes il y a des situations qui sont normales, là. Mais il y en a plusieurs que ça devient le temps d'aujourd'hui. Le monde pense à eux, seulement qu'à eux. Vous savez qu'il y a un principe, dans le témoignage de Noé, il y a un principe qui nous rappelle, que nous rappellent les Écritures, c'est qu'à travers tous les temps, Dieu a toujours eu des témoins fidèles. Nous autres, on est habitués d'étudier plus ceux qui ont vécu dans les années 400, 1500, 1600, 1700, 1800. On a beaucoup d'histoires de ces personnes-là. On a eu des personnes fidèles. Mais dans le temps avant le déluge, on a eu des personnes fidèles. Au verset 5, nous lisons, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se rapportaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça ressemble aujourd'hui un peu, hein? Et au verset 8, « Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. J'aimerais qu'on pense deux points là. Noé, Dieu a fait grâce. Noé était un homme juste et intègre. En son temps. Vous avez compris? En son temps. Puis Noé marchait avec Dieu. On revient trois fois. Quatre fois, Noé revient dans ces deux versets. Noé trouva grâce. Noé était juste et intègre. Puis Noé marchait avec Dieu. Trouver grâce, faveur imméritée. Alors Noé avait la même nature pécheresse que nous autres. Même nature pécheresse que les autres. Même descendant. Mais Dieu lui a fait grâce. Deuxième grande vérité, c'est que c'est un homme juste et intègre. C'est-à-dire c'est un homme juste, un homme correct, honnête, conforme. Intègre, ça veut dire pur, d'une manière non corrompue. Ça ne veut pas dire qu'il faisait des erreurs. Il ne faisait pas d'erreurs. Mais quand il faisait des erreurs, il allait les réparer. Il était honnête. On ne pouvait pas le blâmer de vivre dans l'immoralité comme tout le monde. Sa vie démontrait une vie différente des autres. Le verbe marcher se retrouve facilement dans ces personnages-là. Vous savez, les quatre derniers personnages antédiluviens, quatre personnages qui marchaient avec Dieu. Dans un homme enténébré incroyablement. Alors, Enoch et Noé sont... On a que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. » Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre. Vous avez ici, dans le verset 11, vous avez le mot corrompu qui revient trois fois. Corrompu, c'est la violence. Ça ressemble un petit peu à ce que nous vivons aujourd'hui, ça. La corruption, on est rendu, là, si tu veux aller voir les prochains politiciens, moi, je ne suis pas un politicien, mais puis je me lance vraiment en politique. Mais je regarde ça, comme les autres. Hein? Je regarde ça, puis s'ils veulent être élus, il va falloir qu'ils aillent vers la majorité, vers la façon dont les gens vivent. C'est là qu'il va falloir qu'ils aillent. Et c'est contraire à nos pensées, à nous autres, c'est évident. Parce que c'est un monde corrompu. C'est un monde de violence. Puis c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, puis c'est dans ça qu'on doit apprendre à marcher, puis c'est dans ça qu'on doit apprendre à être intègre. C'est dans ça, dans ce monde-là, qu'on doit apprendre à ce qu'on soit agréable à Dieu. Enoch et Noé sont deux hommes remarquables dont la Bible dit qu'ils ont marché avec Dieu. Ils avaient une relation quotidienne avec Dieu. Moi, je suis tellement réaliste que ma relation avec Dieu, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous autres. Moi, je réalise que ma relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Ces deux hommes-là avaient une relation quotidienne avec Dieu. Dieu leur parlait, puis ils marchaient avec Dieu, intègrement. Quand vous arrivez le soir avant de vous coucher, vous posez votre question et la sorte de journée que vous avez eue, là. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai marché avec Dieu? Est-ce que tout ce que j'ai fait a reflété ce que je suis? Vous Noé a tellement été un bon témoignage pour sa famille que ses trois fils sont nommés, mais pas les autres. Les femmes de ses fils et possiblement ses petits-enfants ont sûrement été influencés par la vie de Noé. Bien que Noé soit appelé juste et intègre en son temps, ce n'est pas par son mérite, mais c'est par la grâce qui a été épargnée. Vous avez tout tort à l'enlèvement, vous autres? Savez-vous ça, qu'on va être enlevé par grâce? Ce n'est pas par nos mérites qu'on va être enlevé. C'est par la grâce. On est sauvé par la grâce, on marche par la grâce, on va être enlevé par la grâce. C'est tout par grâce. Dans le livre d'Hébreux, nous lisons que c'est par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez qu'il n'y avait rien d'autre que la parole de Dieu pour le guider? Il y avait seulement la parole de Dieu pour le guider. Mais pour lui, c'était suffisant. Et vous regardez aujourd'hui comment le monde, ils vont chercher n'importe quoi, n'importe où. Et nous, on se tourne vers la parole de Dieu, puis on écoute les gens qui nous parlent contre la parole de Dieu. Ça nous amène, à un moment donné, on se pose la question, coudonc, mais là, on retourne dans la parole et on redevient, ça nous saisit, puis on croit encore davantage ce qu'elle est. Noé avait seulement la parole de Dieu pour les guider, puis pendant 120 ans, il cognait du marteau, puis le monde riait de lui, puis il continue pareil. Parce que Dieu dit, continue jusqu'à la fin, tantôt il va pleuvoir. Moi, le monsieur qui m'a annoncé l'Évangile, quelques semaines après, je suis retourné le voir, puis on est allé faire une petite commission ensemble, puis on rencontre quelqu'un, puis il commence à y témoigner. Fait que le gars, il dit, regarde, ça fait 45 ans. Là. Il commençait, c'était pas comme aujourd'hui, mais regarde, moi, là, je fais le même job que Noé. Je vous le dis, il va mouiller tantôt. Il dit, je fais le même job que Noé. Mais nous autres, on est là, on n'est pas pour leur dire qu'il s'en vient un déluge. Il s'en vient un jugement. Parce que le déluge, c'est un jugement. Alors, il s'en vient un jugement. Mais quand tu parles de jugement aux gens, c'est sûr qu'ils n'en veulent pas. Alors, il faut arriver avec de quoi de plus simple. Et il y a des petites cartes que j'ai apportées, que j'ai mises sur la table en arrière, là. Qui nous dit, juste la façon que tu réfléchis, est-ce que c'est la bonne? Ça amène les gens juste à se poser la question. Mais ce qui m'a arrêté dans ce point, c'est de voir que Noé avait seulement la parole de Dieu pour le guider, puis il s'est laissé guider, puis il a marché avec Dieu pendant toute sa vie, seulement en croyant la parole de Dieu. Noé est un témoin exceptionnel. Alors que le mal grandissait de plus en plus, lui, il reste un homme fidèle par la foi. Plus que ça va, hein, ceux qui ont 30 et 40 ans de vie chrétienne, vous savez, depuis le début, amené jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les ténèbres, on dit tout, les ténèbres épaississent, mais ça veut dire que c'est beaucoup enténébré, les gens d'aujourd'hui. C'est irreligieux, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue à marcher par la foi? Est-ce que ma foi... Je suis interpellé, puis à un moment donné, je commence à douter. À douter de la parole de Dieu, ma seule référence fiable. Noé ne savait pas combien de temps durerait sa prédication en construisant l'arche. Parce qu'en construisant l'arche, lui, il parlait. Il leur avait dit qu'il était pour pleuvoir. Le monde a ri de lui. Mais à chaque fois qu'il entendait Noé construire son arche puis grossir. À un moment donné, là, je ne sais pas, mais ça a pris 120 ans. Ça veut dire, au bout de 60 ans, ceux qui étaient là, ils devaient dire, mais coudonc, le père, il est-tu sérieux, lui? Ça fait 60 ans qu'il fait ça. Ça se peut-tu que quand il va avoir fini, que ce qu'il dit, que ça va arriver? Il y en a sûrement qui se sont posé la question. Ça va durer combien de temps? Ils ne savaient pas. Mais plus le temps avançait, plus le monde se corrompait. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En d'autres termes, avant que le Seigneur revienne, le monde aura passé par des situations de violence, de débauche, de dégradation morale, spirituelle, semblable à celle que Noé et les siens ont vécues. Abomination, aversion, répulsion. Le monde appelle ça la fierté. Dieu dit que c'est une abomination, c'est une aversion, c'est une répulsion. Allez pas les contredire. Ils progressent. C'est bien clair, ils disent, on a un pas de fait, il faut continuer. Où est-ce qu'on va se ramasser, nous, avec ça, tantôt? Je ne sais pas, mais Matthieu 24 nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'insouciance d'une société matérialiste avide de plaisir qui favorise la violence et la débauche. Nous, aujourd'hui, dans une société qui se préoccupe de moins en moins de Dieu et de sa parole, et qui se livre de plus en plus à l'idolâtrie, au vice de la chair, qui se dirige évitablement vers un jugement. Pas besoin de vous faire un dessin, vous écoutez les nouvelles comme moi, vous lisez les journaux, vous vivez dans ce monde. Vous savez qu'à l'époque de Noé, le Seigneur a été patient avant qu'il ouvre les sources d'eau, les écluses des cieux. Mais comment va durer sa patience encore avant que le prochain jugement s'en vienne? Si vous écoutez les nouvelles, moi, ma femme, tous les midis, elle est sur News 21 là, à Jérusalem, les nouvelles en direct. Quand ils envoient des requêtes, elle les voit passer. Vous pouvez aller sur un site gratuit. De jour en jour, ça progresse. C'est incroyable comment... Le matin, on se lève, comment se fait que la guerre n'a pas commencé? C'est incroyable comment on se rapproche. Mais ça va durer encore combien de temps? Moi, quand je vois ça, je dis, on n'a pas de temps à perdre. À aller s'amuser dans les affaires du monde. Le Seigneur, il est là bientôt, là. Je vais être où quand il va revenir? De plus en plus, aujourd'hui, les gens, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se tournent vers les pratiques occultes. Je ne fais pas le tour de tout ça, il y en a trop. Vous savez qu'en Inde, on voit apparaître des gourous qui monopolisent des milliers d'adeptes, et tous ces gourous enseignent la réincarnation, qui est complètement le contraire de la résurrection. Certains prétendent même que Jésus aurait été une réincarnation de Krishna ou de Bouddha, ou un grand maître du passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Inde, quand quelqu'un, ça c'est pas vrai, mais pour eux autres, quand quelqu'un réincarne, il réincarne dans un animal. Alors, il baisse de coche. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, la quatrième génération, il peut aussi bien manger sa grand-mère. Tu sais. C'est quoi? Mais ici, ça n'aurait pas marché, ça. Alors, quelqu'un qui réincarne, il monte. C'est la philosophie, c'est ce qu'on enseigne par ici. Tu baisses pas, tu montes. Dans ta prochaine vie, tu as eu une vie difficile, ta prochaine va être meilleure. C'est incroyable comment Satan tricote, puis amène ça, puis les gens croient ça. Vous savez que jusqu'aux années 1960, il y avait très peu d'Occidentaux qui croyaient à la réincarnation. Aujourd'hui, cette croyance dépasse les 25 à 30 des Américains, puis 50 des Européens. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années? De même que le yoga est pratiqué dans les cercles occultes, aujourd'hui, il y a 19 millions d'Américains qui sont des adeptes. Même dans la musique, je vois ça, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la musique du monde. Les Beatles, là, George Harrison y chantait « My sweet Lord, hallelujah ». C'était son mantra, son dieu hindou. Et l'une des formes de yoga la plus pratiquée en Inde, c'est le tantra, qui est une possession de la personne. Le tantra, tu es libéré par l'élargissement de ta conscience. Puis à un moment donné, tu n'es plus toi-même, tu deviens quelque chose d'autre. C'est la même chose pour la méditation transcendantale. Au cours d'une cérémonie, l'étudiant reçoit la connaissance secrète de son mantra. Mantra, c'est un mot répété silencieusement pendant la méditation, la répétition, ça devient une forme de prière. Alors, la méditation devient une drogue, plus capable de vous en passer. Ainsi, vous vous isolez et vous entrez dans votre petit monde. Et remarquez bien que l'alimentation végétarienne, moi, j'ai été végétarien un petit bout de temps, là. Je me suis aperçu que ce n'était pas la solution. En tout cas, il y en a qui aiment ça. On appelle ça des granolas. L'alimentation végétarienne, la meilleure diète devient une chose essentielle pour avoir une expérience avec la méditation transcendantale. Quand vous allez dans les magasins qui vendent des produits naturels, remarquez qu'en grosse majorité, ce sont des gens qui vont faire de la méditation transcendantale. Même de nos jours, les milieux évangéliques, la foi est remplacée par la pensée positive. Ah, tu as une force en toi, crois seulement. Crois en toi, puis regarde en avant, puis avance. Et que dire de l'acupuncture, la réflexologie, les plantes miracles? Michel disait la semaine passée, hein, faites attention. Ça en passe des choses sur Internet, puis si vous n'avez pas de discernement, là, vous allez vous faire avoir, puis votre foi va en prendre un coup. Vous savez qu'aux États-Unis, la prière est interdite dans les écoles, vous savez ça depuis longtemps, hein? Mais le yoga et la méditation est enseigné. Ben oui. Et ça compte aujourd'hui 30 millions d'adeptes. Et on pourrait parler de toutes sortes d'affaires. Vous vous souvenez du film E.T., une base de l'hindouisme? Vous avez des petits films des enfants aujourd'hui, là, les animaux qui parlent, les figures déformées, là. Il y a un message là-dedans. Si vous voulez de la documentation, il y a les dieux de l'an 2000, la parapsychologie, le nouvel âge, toutes des sources qu'on peut aller se référer. Benjamin Krim, c'est un conférencier du nouvel âge, lui a cité, dit « Nous sommes tout près d'une nouvelle ère où toutes les religions ne feront qu'un. Nous n'aurons qu'un leader et ce sera la paix sur la terre. » Il a écrit ça dans les années 70. On a fait du chemin depuis ce temps-là. Hein? Vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit que tout le monde attend quelqu'un. Vous, vous attendez qui? C'est ce qu'il dit. Il dit les chrétiens attendent Jésus-Christ. Les musulmans attendent Mahi. Les bouddhistes attendent Bouddha, un autre Bouddha. Les hindous attendent Krishna. Les juifs attendent le Messie. Benjamin Krim, il dit nous attendons un nouveau maître qui les réunira tous pour en faire qu'un. Il a écrit ça en 70. Mais que va-t-il arriver avant que ce super-homme vienne pour réunir tout le monde? Bien, nous allons vivre sur la terre des jours comme dans les jours qui précédèrent le déluge. Développement de la violence, de l'occultisme, corruption des mœurs, indifférent au message de Dieu. On vit ça, là. On le vit déjà. Alors, que devrait être mon attitude face à cela? Notre attitude devrait être celle de Noé, juste, intègre, séparée du mal, sous toutes ses formes. Un fait à remarquer, c'est que ces quatre hommes de Dieu dont on a parlé, ils ont transmis la vérité pendant 1500 ans, jusqu'au déluge. En conclusion, on peut voir que l'application qu'on peut en tirer pour aujourd'hui, c'est que nous aussi, notre vie est caractérisée par un monde de ténèbres. Nous aussi, nous sommes sauvés par grâce. Nous aussi, notre vie doit plaire à Dieu. Nous aussi, nous serons enlevés soudainement. Et nous aussi, nous devons marcher avec Dieu. Nous avons un exemple des hommes qui ont marché avec Dieu. Bien, nous aussi, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Et pour mieux marcher avec Dieu, nous avons besoin d'améliorer notre relation personnelle avec Dieu. Je préfère marcher avec Dieu et être jugé par le monde que marcher avec le monde et être jugé par Dieu. Prions. Seigneur, on veut te remercier encore ce matin pour ta parole qui nous ramène, on va regarder brièvement ces quatre hommes de Dieu qui étaient allés avant le déluge, vivant dans un monde de ténèbres comme nous vivons aujourd'hui. Mais on veut te remercier, Seigneur, qu'à travers cela, on apprend des bonnes leçons, que nous aussi, on doit apprendre à marcher avec toi, à être intègre, juste. Et Seigneur, si on ne peut pas le faire sans ta grâce. Et c'est pour ça qu'on la réclame, cette grâce, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ.